Je voudrais méditer avec vous la seconde partie du verset 10 du chapitre 1er de l'Apocalypse. Nous avons remarqué dans la première partie le fait que sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean a été ravi en esprit. Mais il précise « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Dans sa situation, l'apôtre Jean a expérimenté, nous l'avons dit, comme une libération dans son contexte terrestre pour être transporté en esprit hors de son cadre géographique, mais aussi, comme nous le disions dans notre message précédent, hors de son cadre historique. Il a eu la révélation des choses à venir et sur un laps de temps extrêmement long, sur des siècles. Je fus ravi au jour du Seigneur. Que faut-il entendre par jour du Seigneur? L'expression grecque signifie littéralement jour seigneurial. Les exégètes se sont orientés vers une expression parallèle à propos de la célébration de la Sainte Cène qui a été appelée dans l'Écriture, vous le savez, le repas du Seigneur. En effet, l'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, verset 20, « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur. » On savait les excès qui se produisaient malheureusement dans l'église de Corinthe. Et à propos de la Sainte Cène, ici, l'apôtre Paul emploie l'expression « le repas du Seigneur ». Et on pourrait traduire par « le repas seigneurial ». Cette commémoration, vous le savez, avait généralement lieu le premier jour de la semaine. On en a déduit que Jean avait été saisi par l'Esprit le jour seigneurial, c'est-à-dire le dimanche. Nous avons d'autres textes de l'Écriture que vous connaissez, où le dimanche est appelé le premier jour de la semaine, ou le premier jour de la semaine dans l'Écriture désigne le dimanche. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 7, il est écrit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Et dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 16, versets 1 et 2, l'apôtre Paul dit « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. » Si le dimanche a été appelé le jour du Seigneur, c'est parce qu'il est consacré à l'adoration, à la communion fraternelle, à la libéralité, à la célébration de la Sainte Cène. Il est le jour de la résurrection de Christ. Mais, pour revenir au texte de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur », l'expression « jour du Seigneur » ici dépasse de loin la notion que je viens d'évoquer. D'ailleurs, l'apôtre Jean aurait-il pu assimiler autant de connaissances en l'espace de 24 heures? La révélation, l'Apocalypse, a été quelque chose d'extraordinaire. Le jour du Seigneur, cité fréquemment dans le Nouveau Testament, correspond au jour de l'Éternel qui est mentionné tout aussi fréquemment dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre du prophète Joël, au chapitre 1er, verset 15, « Ah, quel jour ! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Sophonie, chapitre 1er, verset 7, « Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. » Malachie, chapitre 4, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Et je pourrais mentionner beaucoup d'autres textes dans cette même pensée. Il faut savoir que le Nouveau Testament emploie trois expressions très proches, mais qu'il ne faut pas confondre. Et j'attire ici toute votre attention. La première de ces expressions, c'est le jour de Christ. Et le jour de Christ, dans l'Écriture, fait allusion à l'enlèvement de l'Église et à sa rencontre avec le Seigneur. L'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 8, « Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans son épître aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 6, il écrit aux chrétiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, je le répète, le jour de Christ ou le jour de Jésus-Christ désigne le moment où l'Église va être enlevée à la rencontre avec le Seigneur. Il y a une seconde expression qui apparaît dans le Nouveau Testament. C'est le jour de Dieu. Et le jour de Dieu, nous allons le découvrir par un texte, fait allusion à la catastrophe qui va anéantir la création actuelle et qui sera suivie de l'apparition de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. En effet, l'apôtre Pierre écrit dans sa seconde lettre au chapitre 3, verset 11, « Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Au jour de Christ, lors de l'enlèvement de l'Église, les cieux enflammés ne vont pas se dissoudre, les éléments ne seront pas embrasés pour se fondre. Il est question ici d'une autre période, du jour de Dieu, avec la catastrophe qui va anéantir, je le répète, la création actuelle et qui va être suivie, comme le dit Pierre ici, de l'apparition de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Et puis il y a une troisième expression, il y a le jour de Christ, le jour de Dieu, et il y a une troisième expression qui est le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Et nous découvrons cette expression dans la bouche de l'apôtre Pierre lorsqu'il prêche l'Évangile le jour de la Pentecôte. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 19, il rappelle la parole du prophète Joël, où Dieu dit « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et le jour du Seigneur ici, nous le comprenons par ce texte, désigne l'ensemble des événements à venir sur la terre et dans le ciel, depuis l'enlèvement de l'Église jusqu'au jugement dernier. Et dans cette période-là, le ciel, d'une part, sera témoin de la comparution des croyants devant le tribunal de Christ, et il sera témoin des noces de l'agneau, moment glorieux pour les rachetés. Quant à la terre, elle verra se dérouler la grande tribulation, le règne de l'Antéchrist, la seconde phase du retour foudroyant de Christ, l'établissement de son règne millénaire, la dernière révolte de l'humanité et la condamnation définitive de Satan, et c'est alors que surviendra le jugement dernier. Le jour de Christ, c'est l'enlèvement de l'Église. Le jour de Dieu, c'est l'anéantissement de la création actuelle, l'apparition de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Et le jour du Seigneur, c'est l'ensemble des événements à venir sur la terre et dans le ciel, depuis l'enlèvement de l'Église jusqu'au jugement dernier. L'apôtre Jean, saisi par l'Esprit de Dieu, est donc transporté, vous l'aurez compris, au-delà de l'ère chrétienne, franchissant les siècles, dans un futur où vont s'accomplir tous les événements annoncés dans l'Apocalypse. Il prend conscience de la fin du temps de l'Église et la fin du temps de la grâce. J'en viens, pour conclure, à ce que l'apôtre Jean précise à la fin du verset 10. Je vous le relis, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi comme une voix forte, comme le son d'une trompette. » Et il y a là un signe annonciateur, parce que la trompette, dans la parole du Seigneur, servait à convoquer les Israélites aux assemblées. Je lis dans le livre des Nombres, au chapitre 10, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. » Et puis, je vous lis dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, verset 15, « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. » Nous pouvons comparer avec ce que nous dit le livre de l'Exode, au chapitre 19, verset 16, alors que le peuple se trouve au pied du Sinaï, que Moïse est monté sur la montagne à la rencontre de Dieu et il va, nous le savons, recevoir les 10 commandements. Nous lisons dans Exode chapitre 19, verset 16, « Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. » Nous pouvons lire également dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 20 et au verset dans le livre de l'Exode au chapitre 20 verset 18, Exode chapitre 20 verset 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Et puis, nous avons un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 18, qui rappelle ce moment-là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au destinataire de sa lettre « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. » Souvent, la trompette est mentionnée comme devant annoncer une apparition solennelle de Dieu. Il en sera ainsi lors du retour de Christ dans sa gloire et que l'Église sera enlevée au ciel. Ce sera alors le son de la trompette pour la grande assemblée, pour le grand rassemblement des élus. Le Seigneur Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, verset 31, à propos du Fils de l'homme, donc de lui-même, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Et puis vous connaissez bien ce texte dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et enfin, nous avons cette parole de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 51, voici « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. » Ce n'est pas sans raison, je crois, que, alors que Jean est ravi en esprit au jour du Seigneur, qu'il entend derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette. D'une part, le Seigneur Jésus, nous le verrons dans nos prochaines études, lui apparaît d'une manière solennelle et glorieuse, mais en même temps, il annonce où il va annoncer par la bouche de l'apôtre Jean le grand rassemblement auquel toute l'Église fidèle va participer lors de son retour sur les nuées du ciel où le Seigneur va attirer à lui pour l'introduire dans sa gloire son épouse bien-aimée. Le psalmiste dit au psaume 89, verset 16, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Je vous souhaite de tout mon cœur, et je le souhaite pour chacun de vous, je me le souhaite pour moi-même, que nous soyons au nombre de ceux qui connaissent le son de la trompette, et qui savent quelque chose de la communion avec le Seigneur, de sa manifestation solennelle, glorieuse, mais ô combien précieuse, au fond de notre cœur, dans notre esprit, dans notre relation avec lui, parce que si nous connaissons maintenant, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre intimité avec lui, le son de la trompette, Alors lorsqu'il paraîtra sur les nuées du ciel pour attirer à lui son peuple, alors nous entendrons à ce moment-là le son de la trompette et nous serons enlevés glorieusement à sa rencontre pour être toujours avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie dans la foi, qu'au travers des temps difficiles que nous sommes en train de traverser, nous puissions en profiter pour nous approcher plus près du Seigneur, vivre plus près de lui, apprendre à mieux le connaître, à mieux l'aimer, à mieux le servir.